السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, chers sœurs en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal, Allah le Très-Haut, qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir dans cette masjid, Bayt min Buyutillah, pour une action, pour un moment extrêmement important. Un moment d'une grande importance pour Ridwan et Nasira, parce que ce soir ils vont voir le muhabba qui existe entre eux se concrétiser, Inch'Allah, officiellement par les liens du nikah. Également un moment extrêmement important pour deux familles, pour la famille Amla et la famille Lokat. Ce soir, mes chers frères en islam, mes chères sœurs, ce sont deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui ont la muhabba de leur cœur, comme on l'a dit, qui vont voir leur muhabba se concrétiser, comme Allah Azza wa Jal le veut et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. Mais c'est également deux croyants, deux personnes qui ont iman et qui vont voir leur iman, leur foi se compléter par l'intermédiaire du zawaj, par l'intermédiaire du nikah. C'est également deux croyants qui vont mettre en pratique une sunna, la sunna historique qui a été pratiquée par tous les anbiya alayhi mussalat wa salam et qui fait partie de la fitra, c'est-à-dire de l'innéité. Parce que tous les prophètes, on a déjà entendu le récit à plusieurs reprises, tous les anbiya alayhi mussalat wa salam se mariaient et avaient donc des enfants, à l'exception bien sûr de Isa, de Jésus donc en français, et on connaît qu'à la fin des temps, lorsqu'il reviendra, lui aussi il va faire le nikah. C'est également deux familles, comme on l'a dit, qui vont s'unir, qui vont développer entre eux la muhabba. Et ça c'est extrêmement important, l'apport de la muhabba au sein de la Ummah. On ne finira jamais de parler de l'entente de la muhabba au sein de la communauté, et le zawaj, le nikah, fait partie des actes qui amènent la quiétude, la sakina et la muhabba, l'entente au sein de familles et au sein donc de composants de la société. C'est également la communauté toute entière qui va s'enrichir d'un couple, Inch'Allah, qui sera un couple de croyants et qui, Inch'Allah, aura une progéniture pieuse dans le droit chemin. Et c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam également qui sera donc fier de ses enfants le jour des comptes. Car le prophète alayhi salatu wa sallam avait encouragé les personnes qui se marient à avoir beaucoup d'enfants afin qu'ils soient fiers que notre umma est la umma la plus importante, la plus nombreuse le jour de Qiyam. Donc ce soir, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se concrétisent. Les sentiments, la foi, la muhabba, l'union entre les familles, le fait que la communauté, la umma, la jama'at va se consolider. Et enfin, c'est une bonne nouvelle pour ce père de famille à qui Allah Azza wa Jal a accordé deux filles et qu'il puisse assurer l'éducation, la tarbiya de ses filles jusqu'à ce que cette fille devienne, mashallah, mature. Et selon donc le commentaire de Mouhaddithine, que ce père arrive à marier cette fille à un homme vertueux, ce qui est inshallah le cas ce soir. Et notre prophète alayhi salatu wassalam avait rappelé que ce père de famille à qui Allah a accordé deux filles et qui donc, comme on vient de l'expliquer, qui donne une éducation correcte jusqu'à le mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je serai proche comme deux doigts de cette personne le jour de Qiyam. Et c'est là qu'on voit l'importance que notre dîn a donné à la femme, a donné à la maman, a donné à l'épouse et a donné à la fille. Ces vertus, on ne les retrouve pas pour celui qui marie deux garçons, mais on le retrouve pour ce papa qui va marier deux filles. Et on le répète à chaque bayan de nikah, on ne le répétera jamais assez, mes chers frères et sœurs, un nikah c'est quelque chose d'exceptionnel. Scrutez les autres religions, les autres confessions. Est-ce que vous voyez des jeunes de 20, 25, 26 ans se marier dans les différents lieux de culte? Les gens ne se marient plus. Les gens se suffisent maintenant du... C'est quoi le gros mot qui remplace le zina? Le concubinage. Les gens se suffisent amplement du concubinage, petit signe de qiyama annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la conclusion,
c'est que lorsque nous voyons des jeunes qui se marient, dalalatun ala al-iman, c'est une preuve qu'il y a la ilaha illallah de ce cœur. C'est une preuve qu'il y a l'amour d'Allah de ce cœur, qu'il y a le respect des ordres d'Allah et le respect des interdits. Des gens qui ne veulent pas faire un pas de le haram, donc cet amour va se concrétiser par le nikah, par les liens sacrés du mariage. Alors, Ridwan toujours crispé, toujours pas un sourire, c'est normal. On le dit à chaque fois lors d'un mariage, les mariés et les familles sont crispés. J'ai eu l'occasion une fois, ça tient un petit sourire, d'officier un nikah un soir de Saint-Valentin. C'était quand même bien, c'était romantique on va dire, mais c'est la première fois que officier un nikah le soir d'Halloween. Chacun choisit son thème, Ridwan, d'accord? Mais ça prouve également qu'il n'a aucune croyance, hein, c'est assez pratique, parce que sinon il n'y a pas de superstition, d'accord? C'est notre dîme. Alors, et là encore, c'est un message qu'on essaie de faire passer avec chaque personne qui se marie, c'est valable pour des nouveaux mariés, c'est valable également pour des couples qui existent déjà, même des couples, mashallah, avec une expérience, avec un CV impressionnant, c'est que le mariage, mes chers frères et sœurs en islam, se repose sur deux piliers. Et si vous enlevez, vous ébranlez, vous affaiblissez, vous déséquilibrez un de ces deux piliers, et il y a un déséquilibre dans le concept même du nikah, du début jusqu'à la fin. Les deux piliers du nikah sont quoi? Premièrement, la pratique du dîn. Le fait que le mari et la femme soient assidus dans la pratique des ordres d'Allah, en commençant par les priorités, la salat, et en s'éloignant de ce qui est haram. Ça, c'est le pilier numéro 1. Et le deuxième pilier, c'est quoi, Ridwan? L'amour dans le couple. Et s'il y a donc, comment dire, un déséquilibre, ou un des piliers s'affaisse, ou qu'il y a un qui prend le dessus sur l'autre, il y a un déséquilibre dans le couple. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre que d'amour. Même si les conditions du bonheur sont réunies, la plus belle des maisons, des demeures, des, mashallah, une entrée d'argent tout à fait confortable, bref, les conditions du bonheur, hein, comme dictées par notre société, sont réunies. Mais s'il n'y a pas le mot magique, c'est quoi le mot magique qui ne pourra jamais être défini ni compris par les grands spécialistes de l'économie, par les meilleurs ministres de l'économie de tous les pays développés ou sous-développés? C'est là la baraka, la bénédiction d'Allah. On peut avoir les conditions du bonheur, s'il n'y a pas la baraka, il n'y a pas la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, le bonheur ne trouvera jamais sa place dans ce foyer, parce que quand il n'y a pas baraka, quand il n'y a pas la bénédiction d'Allah, les cœurs ne sont pas apaisés. Les cœurs ne sont pas tranquilles. Il n'y a pas la sakina, il n'y a pas le nour, la lumière d'Allah qui descend dans ce foyer. Donc le premier pilier, comme on a dit, c'est la pratique de la religion. Sans pratique de la religion, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de baraka. L'autre pilier, c'est l'amour, comme on a dit. On ne peut pas non plus vivre uniquement de ibadah, parce que nous ne sommes pas des anges, et loin de là. Nous ne sommes pas des malaïka, nous ne pouvons nous suffire des actes d'adoration. Si dans un couple, mashallah, des gens extrêmement pieux, tous les jours, le mari et la femme jeûnent, et tous les soirs, ils font qiyamul layl, depuis salat al-isha jusqu'à salat al-fajr, et qu'ils n'ont donc jamais de rapport, qu'ils n'ont pas d'échange de muhabba, c'est un couple qui ne tiendra pas. Parce que c'est un couple qui ira à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on a le temps, on verra comment est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam agissait avec sa femme et quelle était l'épreuve de muhabba au quotidien envers sa femme. Donc, ces deux piliers doivent être présents, l'obéissance aux ordres d'Allah et les sentiments. C'est ce qui fait que notre religion également est rationnelle. C'est quelque chose de rationnel, ce n'est pas basé uniquement sur la spiritualité, c'est basé sur la spiritualité, mais c'est basé également sur l'humain. Et quand on arrive au parfait équilibre entre la spiritualité, la pratique de la religion et l'amour, le respect mutuel au sein du couple, l'homme et la femme trouvent une stabilité. L'homme et la femme trouvent la baraka de leur vie. Ils trouvent la baraka de leur temps. On arrive à faire tout ce qu'on avait prévu de faire. C'est comme si que tout ce qu'on avait prévu de faire, mashallah, on trouve le temps et les projets se concrétisent. C'est quand il y a la bénédiction d'Allah, la baraka. Le couple trouve également la baraka dans les relations. Même s'il peut y avoir des divergences ou des différends, mais dans le fond, il reste un attachement profond, inébranlable, que personne ne pourra toucher ou porter atteinte. Il trouve également baraka dans la famille, dans les enfants, dans la progéniture. Les enfants deviennent obéissants, deviennent pieux, et c'est une source de fraîcheur des yeux pour les parents. Ça, c'est quand il y a les deux piliers qui sont respectés au sein du mariage. Le couple sera renforcé et ils seront prêts, mashallah, pour vivre toutes les étapes de la vie, parce que la vie est composée de moments de bonheur. Il y a des hauts, mais parfois il y a également des bas. Hein, ce sont des choses qui font partie de la sunnah d'Allah dans la vie des épreuves. Quand il y a une muhabba sincère entre l'homme et la femme, quelle que soit la nature des épreuves, ils s'en sortiront encore plus fort, parce que ce sont là deux esprits qui se sont fusionnés, deux éducations, deux conceptions des choses, deux intelligences qui se sont fusionnées sous un même toit, et deux niveaux de taqwa qui sont ensemble pour propager le dîn, pour faire en sorte que le dîn reste au sein du couple et se propage avec les enfants. Ce sera une usra mubaraka, une famille bénie par Allah Azza wa Jal. Ça, ce sont les thèses. La réalité, c'est dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là aussi, mes chers frères et sœurs, nous voyons la cohérence de notre dîn. Ce n'est pas une religion basée sur des discours, sur des citations, sur des fables. Il faudrait faire ça, ce serait bien. Idéalement, le croyant doit... Ce n'est pas que ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné les différents points, les différentes choses à faire. Mais il les mettait en pratique, intégralement. Ce qui fait que nous avons le discours et nous avons également al-qudwa, le mithal, l'exemple à travers le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On prendra, il y a tellement d'exemples, subhanallah, on prendra un seul exemple. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam était avec Khadija radiallahu anha dans Sha'b de Abi Talib, lorsqu'il y a eu l'embargo, cherchez le terme, lorsque les Quraysh n'en pouvaient plus de décourager le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propager le din. On est d'un discours de mariage et de da'wah en même temps. Ils ne savaient plus quoi faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont boycotté toute la tribu, même ceux qui n'avaient pas iman, toute la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une lignée particulière, ils ont été boycottés. Selon certains, soit c'est pendant plus d'une année. Et donc, ils sont partis dans un endroit et à un moment donné, ils étaient à court de nourriture. Obligé, on a peut-être entendu ces épisodes de l'histoire, de la Sira, t'es obligé de manger des feuilles. Il n'y avait plus rien à manger. Et l'embargo était tellement sévère qu'ils, même s'ils avaient les moyens, il y avait des gens aisés parmi cette branche des Quraysh, mais les commerçants de Makkah n'avaient pas le droit de vendre de la nourriture ou des graines ou des céréales, rien du tout. C'était un embargo, une coupure totale. Et donc, ils ont vécu dans des périodes difficiles. Et qu'est-ce qui nous intéresse dans les liens du mariage? C'est que dans cette histoire, Khadija radiallahu anha a pris d'elle-même l'initiative de rester auprès de son mari, du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle n'était pas concernée par cet embargo. Elle était d'une autre tribu. L'embargo concernait cette branche, Fakhid comme on dit, cette branche des Quraysh, et non pas les ramifications, les personnes qui ont une relation par les liens du mariage. Donc Khadija n'était pas concernée. Elle aurait pu rester dans sa maison, et c'était une femme immensément riche, grande commerçante. Là aussi, ça nous fait comprendre que, subhanallah, l'islam n'est pas là pour aliéner la femme. Elle avait iman, elle était une commerçante reconnue dans, je dirais, la péninsule arabe, mais déjà de l'Hijaz, dans cette région d'Arabie. Donc pour revenir, Khadija a décidé, c'est pas le prophète qui l'a demandé, elle a décidé de rester avec son mari. Et selon certains mu'arrikhin, spécialistes de la sira de l'histoire, ils ont dit que quelques temps après cet embargo, Khadija radiallahu anha est décédée. Il dit qu'elle était tombée, selon certains donc mu'arrikhin, historiens, elle a eu ta'thir, hein, elle a été affectée par ces moments où il y avait peu de nourriture, et c'est entre autres à cause de ça qu'elle est donc, elle est décédée. Elle est donc restée avec son mari jusqu'au dernier moment. Ça, c'est un amour exceptionnel et exemplaire. Ça dépasse de loin les exemples qu'on peut entendre, les exemples de romantisme, hein, qu'on entend à travers les œuvres littéraires ou des films cinématographiques ou autre chose. Ça, c'est haqiqa. Ce n'est pas un scénario. Ça, c'est la vraie vie. Basée sur la foi et basée sur l'amour réel entre un époux et son épouse. Et surtout, basée sur le respect mutuel. Parce que tout démarre du respect entre l'homme et sa femme. Un dernier exemple, donc malgré le décalage d'âge entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Khadija, il y avait une muhabba exceptionnelle. Et avec quelle autre épouse il y avait un décalage d'âge entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha, radiallahu anha, et le prophète, Allahu Akbar, alayhi salatu wassalam, comment il est décédé? Est-ce qu'il est décédé l'épée à la main? Est-ce qu'il est décédé sur le mimbar, en train de faire le khutbah? Est-ce qu'il est décédé dans la salah? Non. Il est décédé auprès de la personne qu'il aimait le plus au monde. Le sahaba avait demandé au prophète, Ya Rasulallah, ayyun nasi ahab. Tu aimes le plus, habbu ilayk. Hajib, ça c'est Nabiullah, prophète d'Allah, la meilleure des créatures qui a foulé ce dunya, dit que la personne que j'aime le plus au monde, c'est ma femme, Aïcha. Ensuite, il a demandé parmi les messieurs, il dit parmi les messieurs, Abu Ha, son père, c'est-à-dire Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Ce qu'on retient, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Aïcha radiallahu anha. Il est décédé allongé sur les genoux de le giron, on va dire sur les jambes de Aïcha radiallahu anha. Est-ce que ce n'est pas là le plus grand témoignage de muhabba, d'amour et de, on va dire, de complicité entre un homme et une femme, donc cet amour qui a duré jusqu'au dernier moment de sa vie? Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand il a perdu Khadija radiallahu anha, il n'arrêtait pas de parler de Khadija. Alors qu'il avait eu Aïcha et d'autres épouses, et les femmes à un moment donné elles étaient jalouses, disaient, Ya Rasulallah, Allah t'a accordé meilleur qu'elle, on est là maintenant, pourquoi tu parles encore de cette ancienne femme qui est morte il y a je ne sais combien d'années? Ça se passe à Madina. Le prophète m'a dit que non, jamais en ce sens vous ne pourrez remplacer Khadija. Elle était quelqu'un d'exceptionnel. Les savants disent l'amour qui traverse le temps. C'est pas que Khadija est décédée, le prophète a eu une femme plus jeune, Aïcha, et l'oublie maintenant, l'ancienne épouse. Là, wallah, c'est une fidélité qui reste dans les cœurs et qui traverse le temps. Il reste, subhanallah, reconnaissant envers cette femme qui lui a tout donné, qui l'a assisté. Dans les premiers moments, quand il a eu la révélation, il était dans les taklids, les difficultés. Ça, c'est un amour extraordinaire et exemplaire à travers le mode de vie de notre prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Et Ridwan et Ira, ton épouse également, ça c'est l'amour. L'amour, c'est pas secret story. L'amour, j'essaie de chercher des noms, j'ai pas le même répertoire. L'amour, c'est pas ce qu'on voit, l'amour de le pré ou de le bazar, je sais pas quoi. C'est pas tout ça l'amour. Ça c'est du spectacle. C'est comme Masterchef. Hein, les vrais cuisiniers vont pas perdre le temps dans Masterchef. Les vrais cuisiniers sont en train de travailler. L'amour, le muhabba, ce n'est pas à travers le petit écran, ce n'est pas les télé-réalités, ou le cinéma, ou les romans, le drose, ou la shaykh. L'amour, le vrai muhabba, qui est basé sur l'iman en Allah et le respect de sa femme, c'est pas quand la femme, elle a 20, 25, 30, 40, ça va, parce qu'on a encore des conteneurs de Clarins pour enlever les rides et ainsi de suite. Mais quand elle dépasse 50, 55, là le bouc ça va ailleurs, parce que maintenant c'est bon, c'est rassis, on va passer à autre chose. Ça c'est pas muhabba ça. L'amour ne doit pas être basé sur la contemplation. C'est pas la beauté physique, Luqman qui sourit, c'est pas la beauté physique qui doit m'attirer sur une femme, envers une femme. Certes, il y a la beauté physique, comme certains anciens disaient que faut pas le soir mariage, il faut mettre un oreille sur son tête. Haqiqa, réalité. Il y a l'amour, il y a la beauté physique, mais il y a la beauté du cœur, le akhlaq. Vous savez, il y a des choses, il y a une fusion des cœurs qui peuvent naître quand il y a le respect des ordres d'Allah, et il y a le bon akhlaq, il y a le bon comportement, il y a le désir de imtifal, de mettre en pratique la sunna dans toutes les facettes de la relation de couple. Quand quelqu'un, du côté monsieur comme madame, s'efforce à mettre tout ça en pratique, que vous le vouliez ou non, que vous ayez les moyens ou non, qu'il y a une grande entrée d'argent ou non, que vous viviez dans un studio, dans une villa, peu importe, quand il y a ces conditions qui sont réunies, ce ikhlas, ce désir de se conformer à la sunna, parce que ça donne le mariage, Allah met une fusion entre les cœurs. Et quand les cœurs sont fusionnés, subhanallah, ça résiste à n'importe quelle tempête, à n'importe quel problème. De nos jours, Allah musta'an, bil asaf, malheureusement, il y a autant de cas. Une fois, un tonton l'avait rendu moins, dit que dans le mariage, il dit pas le mot talaq. Hein? Il y a de nos jours autant de talaq que de nikah, autant de divorces que de mariages, malheureusement. C'est un constat amer, mais il faut le dire. Bien que la moindre problématique, le moindre souci qu'il y a au sein d'un couple, ils vont vers la rupture. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, comme, mashallah, comme le prophète et sa femme, mais également comme nos anciens vont regarder dans les générations des grands-parents, des arrière-grands-parents, hein, il y avait, même s'il y avait des moments difficiles, mais il y avait toujours ce respect, il y avait une fusion des cœurs, il y avait le dialogue. Et on trouvait toujours des solutions pour que le couple ne fêtasse pas. Et on peut interpréter ça comme de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Quand il y a le moins de soucis et de la fierté, de l'orgueil, c'est-à-dire des qualités, des défauts qui ne doivent en aucun cas habiter le cœur du croyant. Si ma femme a fait quelque chose qui me déplaît, ou elle a dit une parole déplaisante, ma fierté, mon orgueil fait que je ne ferai aucune concession tant qu'elle ne se soumettra pas 100% à moi. Et comme de nos jours, les femmes ne se soumettent pas ou plus, d'accord ? Dans ce cas, on va immédiatement vers la rupture. C'est un acte, une décision profondément égoïste. Et d'autant plus quand il y a des enfants qui sont en jeu, et je dirais même plus des enfants qui sont en otage. Que pour une question de fierté, d'orgueil, on est prêt à rompre sans se soucier du futur des enfants. Bref, le message qu'on veut faire passer, c'est que c'est à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en lisant la biographie de notre prophète, la biographie des Azwaj Mutahara, des épouses pieuses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut décrypter, on peut vraiment voir quel est le modèle à suivre en termes de muhabba, en termes de akhlaq entre l'homme et la femme. Dernier point. On parlait du respect. Et ça, c'est un élément fondateur. Tant qu'il n'y a pas de respect de la personne qui est en face de nous, le muhabba ne s'installe pas. Vous voyez, entre un homme et une femme, il faut qu'il y ait un juste milieu dans les caractères. Parce que très souvent, quand deux personnes se marient, ils sont issus de familles différentes. Il y a des familles de cultures différentes. C'est pas le cas. Mais vous savez, parfois, il peut y avoir deux familles qui habitent dans la même rue, Marshall Leclerc ou Jules Aubert ou Jules de Dieu ou autre chose. Mais le fait que ce soit deux familles, parfois avec des origines différentes, donc une vision des choses différentes. Et c'est presque comme si c'était deux tarbiya différentes, deux éducations différentes. Est-ce que c'est un handicap? Bilax, bien au contraire. C'est un atout majeur. Parce que ce sont là, comme on l'a dit dans l'introduction, deux éducations, deux modes de vie, deux approches des problématiques de la vie qui vont se fusionner et qui normalement, ça va renforcer le couple. C'est-à-dire, du côté du mari, il y a des atouts, il y a des acquis qui remontent à des générations. Du côté de la femme également, il y a des acquis. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'on trouve le juste équilibre. On ne doit jamais retrouver, ça c'est la thèse, hein, on ne doit jamais retrouver un mari dominateur, un macho comme on dit. Et très souvent, on a cette image que le musulman, il est misogyne, il est macho, c'est lui qui crie, c'est lui qui ordonne et la femme ne fait qu'obéir. Non! L'exemple qu'on donne à chaque fois que le prophète il avait reçu ce plat nourriture, il était avec son épouse, il a jeté, le prophète s'est baissé, il a ramassé, il n'a pas dit un mot. Ça, c'est une grande preuve de sabre, de patience, et que le subhanallah, Anas bin Malik, radiallahu anhu, dit que je suis resté avec le prophète pendant plus de 10 ans, il ne m'a jamais dit ouf, jamais fait de reproche, et jamais demandé pourquoi tu as fait ça ou pourquoi tu n'as pas fait ça. Le prophète sallam ne criait jamais avec ses épouses, subhanallah. Donc, le statut de l'homme, du mari, c'est que en même temps, il y a, on va dire, ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé, lui a donné comme suprématie dans le couple, c'est-à-dire c'est lui qui doit soutenir la femme, mais sans pour autant dominer d'une telle façon qu'il y aura une aliénation, une disparition, un recul du caractère de l'éducation de la femme. Parce que si l'épouse, elle voit que le mari impose ses règles et que donc elle doit faire abstraction de tout ce qu'elle a eu comme acquis, c'est un couple qui va s'affaiblir au lieu de se renforcer. Et de l'autre sens aussi, il ne faut pas qu'il y ait un mari démissionnaire qui laisse sa femme prendre toutes les décisions, parce que là aussi il y aura un déséquilibre, parce que la femme a besoin que l'homme montre la voie, fixe les limites. C'est le cœur de la femme qui est faite de cette façon. De l'autre sens également, de le comportement de la femme, il ne faut pas que la femme... Il y a là aussi, vous savez, tout est une question d'équilibre, de juste milieu. La femme ne doit pas devenir une personne féministe, hein, c'est un terme un peu moderne, qui ne cuisine pas, qui ne fait rien, qui n'obéit pas, je fais tout à ma tête, mais non plus une femme entièrement soumise, qui n'a plus de caractère. Ça ne doit pas être une femme effacée. Ça, c'est la thèse. La pratique, elle est où? Dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que vous entendez des gens dire que chez les arabes, chez les musulmans, c'est le mari qui crie, c'est le mari qui porte le, on va dire le longue vie ou autre chose, c'est lui qui donne les ordres, c'est la femme qui obéit. Et le mari ne considère aucunement la personnalité de sa femme, son intelligence, ses acquis, son éducation. Mais c'est le mari qui commande. On dit jamais de la vie. Et là on revient vers l'exemple qu'on avait cité brièvement en début, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la première révélation, il est effrayé, tellement effrayé qu'il y avait donc un morceau de chair qui bougeait, l'angoisse, c'est pas qu'est-ce qui se passe, il va voir qui? Il va voir Khadija radiallahu anha, l'homme qui va voir sa femme, qui fait mashwara, qui se concerte avec elle, qui explique, qui dit « Oh ma femme, ma bien-aimée, explique-moi qu'est-ce qui se passe ». C'était confidente, quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija, radiallahu anha, les ulama disent que si Khadija était vraiment opprimée, na'oudou billah, comme certains historiens osent dire, si Khadija était une personne effacée avec le prophète, parce que c'était l'homme qui domine, qui donne les ordres, elle n'aurait même pas pu réagir ni rassurer son mari. Elle a gardé toute son intelligence, son intégrité, ses acquis, et avec ça, elle a eu le recul suffisant pour dire « Oh, Muhammad, Allahumma salli ala nabina Muhammad, c'est là, prophète, parce qu'il vient de devenir prophète, dit que jamais Allah ne te ferait du mal, tu es quelqu'un de bien, tu donnes à manger à l'orphelin, à la veuve, tu fais telle chose, telle bonne action, jamais Allah ne te ferait du mal. » Et là, elle a pris la bonne décision. Elle a soutenu son mari. Et quel mari ? Elle a soutenu le meilleur des hommes. Et là, elle va prendre la bonne décision de l'amener vers Waraqa bin Nawfal, vers la personne qui va annoncer que ça, c'est l'ange Jibril, et ainsi de suite, l'histoire qu'on connaît. Donc, à travers cet exemple, nous voyons le juste équilibre et comment la personnalité de l'homme, du mari et de la femme doivent se fusionner pour donner un couple plus fort. Et pour qu'il y ait cette fusion, il doit y avoir tout d'abord le respect, le muhabba, la muhabba et l'entente au sein du couple. Et tout passe par le bon comportement, les bonnes paroles au quotidien. Je pense que c'est suffisant, Ridouane ? Je pense que c'est amplement suffisant. Mais d'autres choses, mais on va s'arrêter, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on peut dire encore comme doigt ? Le dernier conseil, pour arracher un deuxième sourire de toi, Ridouane. Donc, dans ta vie de couple, oublie les garam masala qu'il y a dans la boutique chez Amla, et pense plutôt au djalibi de ta maman, d'accord, et que ta vie soit un djalibi, hein, avec toujours de la douceur et croustillant, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal, belle métaphore, hein, qu'Allah Azza wa Jal mette beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions, de bonheur dans ce couple et dans tous les couples, hein, alhamdulillah, aujourd'hui il y a nikah, à Saint-Pierre il y a nikah, jeudi prochain il y a nikah ici, subhanallah, je sais pas moi, il y a des fois on voit ça juste comme un événement, je dis bon, nikah, ça frappe gâteau, c'est pas ça, c'est une fête pour tout le monde, et ça ne se retrouve plus ailleurs, dans aucune religion, il n'y a plus des jeunes comme ça qui se marient, ça c'est iman qui est là, on doit en être fier, c'est toute la communauté qui profite que deux personnes ne vont pas mettre le pied dans le zina, ils vont pas attirer la rabab, la colère d'Allah sur la umma, au contraire, ils vont aller vers le halal et ils vont avoir des enfants qui seront des pieux musulmans, des pieux croyants. Donc Allah Azza wa Jal mette baraka dans ce couple, dans tous les couples qui se forment. Qu'Allah Azza wa Jal accorde la tranquillité, la quiétude, la sakina dans les couples déjà mariés, quel que soit, mashallah, le nombre d'années de mariage, et que les couples qui battent un peu de l'aile, qui ont un peu de difficulté, qu'Allah Azza wa Jal enlève les wasawis de shaytan, les insufflations du diable de shaytan, qu'Allah protège de Aïn, des mauvais regards, comme on dit, c'est le nazar, les mauvais regards des gens. Qu'Allah Azza wa Jal protège de l'orgueil, de la fierté qui amène parfois vers la rupture. Et qu'Allah Azza wa Jal également permette, hein, accorde une épouse ouverture à ces jeunes qui ont besoin de marier. Si on citait les noms, mashallah, de le premier rang, la plupart de ces jeunes ne sont pas encore mariés. Qu'Allah Azza wa Jal ouvre votre taqdir, vous accorde la personne adéquate, hein, qui fera de vous, inshallah, un homme épanoui et heureux et un homme pieux, inshallah. Et également les personnes qui sont mariées, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ce sera une grande épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal. La santé et la maladie dans les mains d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal également envoie l'ouverture pour toutes ces personnes. Ma tawfiq illa billah. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Alhamdulillahi rabbil alamin.